environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Aujourd'hui nous sommes en Martinique, une petite île paradisiaque des Caraïbes. Après avoir visité la seule bananeraie biologique dans la première partie de l'émission, nous continuons notre périple avec Tonton Léon, le pionnier du maraîchage biologique de Martinique, le premier homme bio AOC et la relance de la culture du cacao. Seulement 27 ans, Cora Bernabé a déjà eu plusieurs vies. Ingénieure agronome, ancienne enseignante, elle est aujourd'hui productrice de cacao et d'arbres fruitiers, présidente de l'Association des producteurs de cacao, créée en 2015 et élue à la collectivité de Martinique. Après avoir emprunté une piste construite par son grand-père dans les années 80, on la retrouve sur le domaine familial près du Carbet, une commune du nord-ouest de la Martinique. C'est là, dans un cadre époustouflant au milieu de la jungle, qu'elle a relancé la production de cacao dans l'île.
Donc là, comme je vous disais, c'est une parcelle d'un hectare à peu près, qui est en partie en prairie et en partie en sous-bois. Et on plante sur la prairie du cacao avec des bananiers, enfin d'autres arbres fruitiers. Beaucoup des arbres fruitiers en voie de disparition en Martinique. Il y a l'abricot pays, de la muscade, des agrumes. On va certainement mettre aussi quelques manguiers, en association avec le cacaoyer et le bananier qui à la fois apporte des revenus beaucoup plus rapidement que les arbres fruitiers mais aussi fait de l'ombrage au cacaoyer.
Donc c'est une volonté en fait de mélanger toutes ces espèces pour protéger le cacaoyer.
Déjà pour protéger le cacaoyer mais aussi pour créer une diversité et puis participer aussi à la diversification végétale sur le territoire. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'arbres en voie de disparition. Le cacaoyer n'existait quasiment plus en Martinique. Aujourd'hui, on est sur une relance de filière, mais on souhaite le faire dans une logique de développement durable et de viabilité aussi. C'est la raison pour laquelle on diversifie. En diversifiant, on va créer des barrières naturelles contre les maladies, donc pas de nécessité d'apport de produits phytosanitaires. Et c'est ce vers quoi on s'oriente en tout cas.
Et comment vous expliquez que le cacaoyer est disparu? Parce que c'était une plante qui était cultivée à l'époque ici en Martinique.
Oui, oui, au XVIIe siècle, Martinique et Guadeloupe étaient les premiers pays producteurs de cacao au monde, avec un chocolat très apprécié de la cour du roi Louis XIV, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'apparition des fronts pionniers en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, donc des territoires beaucoup plus grands que ceux de la Martinique et la Guadeloupe, avec un contexte qui est un contexte où on veut produire en quantité, on n'est pas du tout dans un objectif de qualité comme aujourd'hui. Et puis des maladies qui apparaissent sur le cacao en Martinique et le café aussi, hein. Des maladies qu'on ne connaît pas, des plantations décimées par des ouragans, et puis l'apparition aussi de cultures subventionnées comme la banane. Donc du coup, tout a fait que on s'est retrouvé avec la disparition de la culture parce que c'était plus rentable de faire du cacao en Martinique.
Et du coup, on est passé de combien de tonnes à combien de tonnes du 17e au 21e siècle?
Du 17e, on produisait des milliers de tonnes, 6000 tonnes par an. Et aujourd'hui, sur nos dernières recherches qui datent de 2014, on était sur du 4 tonnes annuelles. Donc c'est rien. Et là, l'objectif, hein, on a un champ, un boulevard devant nous pour relancer cette production. Après, on n'est pas du tout sur un objectif de quantité, même s'il en faut. Mais en tout cas, on ne va pas s'aligner sur des gros pays producteurs comme la Côte d'Ivoire. On est vraiment sur un objectif de qualité. Donc, on a beaucoup travaillé sur les variétés déjà que nous avons sur le territoire. On a fait des recherches pour savoir quelles variétés on avait, d'où elles venaient. On a vu qu'on avait une signature génétique qui est propre au territoire martiniquais avec vraiment différents hybrides. Et aujourd'hui, on a fait fabriquer des chocolats à partir des exploitations. Donc on a travaillé sur des micro-terroirs et on s'est rendu compte que d'une exploitation à une autre, le goût du chocolat changeait complètement avec des notes de fruits rouges, des notes de fruits à coque. Ça, c'est vraiment commun à l'ensemble du bassin caribéen. Des notes de caramel, de banane, etc. Donc c'est très intéressant. Enfin, à partir de ce moment-là où on a vu qu'on avait une diversité génétique, on a vu qu'on arrivait à produire quelque chose de bon, on s'est dit, ok, on a un potentiel de développement d'un cacao de qualité, enfin d'excellence en Martinique. Et là, on s'est dit, on peut redéployer avec ce qu'on a sur notre territoire sans avoir la nécessité d'importer.
Je vous suis ?
On y va. Ça va aller ?
Ah oui, ça va aller. J'essaie de pas glisser, c'est tout.
C'est ça. Je vous laisse passer et après
je vais vous rejoindre. Je vous aide.
En fait, je me suis trompée d'être.
Donc là, on est vraiment dans la prairie, à l'entrée d'une forêt.
C'est ça, tout à fait. On a une partie en prairie, une partie en forêt, et puis il y a ce qui est un peu l'orée du bois. Et on a choisi en fait de mettre des cacaoyers à la fois dans la forêt, à la fois dans la prairie. C'est un peu un test en fait qu'on fait. Et là c'est le tout début de l'expérimentation ici. Il y en a qui ont planté dans le nord Caraïbe des cacaoyers et qui ont une production au bout d'un an et demi. Alors que dans tout ce qu'on lit dans la bibliographie, on voit des premières productions, en tout cas issues de semis, au bout de au minimum 2 ans. Donc là, on a de très bons résultats. Au départ, je ne sais pas si beaucoup de personnes croyaient en la relance du cacao en Martinique, parce que c'est une culture, quand on regarde les cours du marché, on est autour de 3,80 € du kilo. À 3,80 € du kilo, ce n'est clairement pas rentable. Le but, ce n'est pas de créer une culture sous perfusion des subventions, c'est d'arriver à créer une culture qui arrive à vivre d'elle-même. Et du coup, on arrive à... dans un contexte qui est quand même un contexte français, européen. Donc avec des normes françaises et européennes, on arrive à avoir déjà une traçabilité, des normes sanitaires en termes de qualité, mais aussi qualité gustative, qui sont bien supérieures à ce qu'on retrouve ailleurs et qui nous permettent de justifier des prix beaucoup plus élevés et du coup qui permettent de rendre cette culture-là viable sur le territoire.
Justement, quand on est ici en Martinique, est-ce qu'il est difficile de s'adapter aux normes européennes conçues donc souvent à Bruxelles ?
Oui, bien sûr. Le cacao en sous-bois, les gens n'y croyaient pas du tout. Il y a 4 ans, on nous a dit, écoutez, ça n'a pas marché au Venezuela, je ne vois pas pourquoi ça marcherait en Martinique. Et au départ, c'était niette. C'était pas question de planter du cacao en sous-bois. Et depuis janvier, on a cette autorisation-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment une belle avancée.
Autorisation de l'Europe, c'est ça que vous voulez dire ?
Autorisation de l'Europe et de l'État français.
Et la rivière en contrebas. C'est bien d'avoir une rivière pour l'irrigation.
On a la rivière en contrebas, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'en face, on a le canal des esclaves, qui est un canal d'amenée d'eau, qui vient d'une rivière à Fonds-Saint-Denis, donc un peu plus haut, et qui avait été construit par les esclaves au XVIIe siècle, il me semble. Et ce canal existe encore. Et du coup, notre eau, elle vient du canal. Donc on a des centaines de mètres de tuyaux qui arrivent du canal, qui viennent sur la propriété. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de pompe, parce qu'on le fait en gravité, hein, pour avoir de l'eau sans avoir la nécessité d'avoir ou de l'essence ou de l'électricité. Parce qu'on est coupé du monde ici, donc on a...
On n'a pas d'électricité
courante, on est complètement au solaire et il faut faire des économies. De toute façon, il faut toujours trouver des moyens de faire des économies d'électricité. Et le fait d'avoir cette eau qui arrive de plus haut, pour nous, c'est tout bénéfice. Quoi.
Vous êtes en production totalement bio, c'est ça ?
Oui, enfin, alors du coup, je n'ai pas encore la certification, mais je suis en conversion. Donc, zéro produit venant de l'extérieur. Et de toute façon, le cacaoyer, c'est pas un arbre qui est exigeant en intrants. Et comme on prend des variétés d'ici, il y a très peu de maladies. Il n'y a que la pourriture en brune des cabosses qui est liée à un champignon. Et ça se gère très facilement. Et puis, je pense qu'on peut très bien travailler sans produits chimiques, quoi. On va passer pour un moment.
Bonjour monsieur, vous allez bien ?
Ça va ?
Vous voulez boire un peu d'eau ?
Volontiers. Donc c'est vous monsieur qui avez donné L'envie à Cora.
Mais oui, mais oui.
De se relancer dans le cacao.
Et je pense qu'elle va réussir.
D'ailleurs, quand tu as acheté ici, il y avait. Enfin, sur la véranda, il y avait un séchoir pour le cacao. Et d'ailleurs, quand on a fermenté et séché ici, on a eu c'est la première année où on a de bons résultats.
Ouais.
Alors, les anciens devaient déjà connaître les meilleurs lieux pour pouvoir fermenter et sécher dans de bonnes conditions.
De bonnes conditions, ah oui.
Ah oui.
Et on est dans un petit coin tranquille, on est bien.
Grâce à son abnégation, Cora Bernabé a réussi à faire reconnaître le cacao comme une culture française, ce qui n'était pas le cas avant. Et avec les aides de la PAC, la politique agricole commune qui découle de cette reconnaissance, elle espère planter 10 000 nouveaux cacaoyers en 10 ans.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Un petit bouteille, le rhum, ça les olis, ça les transparent. Une bouteille, il bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Un petit bouteille, le rhum, ça les olis, ça les transparent. Une bouteille, il bouge pas, mais dans ton col, il fait l'effet. Moi, mais dis, bois, c'est naloqué à vous supporter. Bois, c'est dans ton col, il fait l'effet. Bois, c'est naloqué à vous supporter. Bois, c'est dans ton col, il fait l'effet. Un petit bouglève, grand matin, il boit son bouteille. Son mari brisa, mais ça que les préfère, c'est son bouteille le rhum. Un petit bouteille le rhum, ça les olis, ça les transparent.
On reste au Carbet, dans la région Nord-Caraïbe. C'est là que le roseau sucré, la canne à sucre, fut implanté en Martinique dès 1640. Grâce à cette canne, l'île est devenue une référence dans la production de rhum connue dans le monde entier. En 2016, la distillerie Naisson, petite entreprise familiale créée en 1932, a produit le premier rhum bio AOC de Martinique, un défi difficile à relever. Julie Moko est agronome chez Naisson.
On se trouve dans un champ de canne à sucre qui est en conversion vers l'agriculture biologique. Donc on l'a planté en septembre 2016. Il sera récolté dans 3 ans en bio. On a complètement modifié nos pratiques agronomiques, donc dans les champs, les travaux à la fois de fertilisation, de gestion des herbes qui sont entre les rangs de canne. Du coup, on remplace en fait des produits de synthèse, que ce soit des engrais ou des produits chimiques comme les herbicides, par des pratiques alternatives. Ça va être à la fois utiliser davantage nos ressources au niveau de la distillerie, comme les déchets organiques, fibreux ou liquides, issus de la transformation en rhum. Et ça va être aussi davantage de travail manuel, donc un travail vraiment de précision au niveau des rangs de canne pour pouvoir se passer de produits chimiques. Et favoriser aussi la maturation et le lien au terroir.
Et est-ce qu'il y a des variétés de cannes qui sont plus propices à devenir bio ou pas ?
Au niveau du bio, on est tenu par le règlement européen d'avoir des variétés différentes puisqu'on a une double activité bio et non bio pour l'instant chez Naisson. Ce qui est compliqué, c'est que les variétés qui sont les plus adaptées, donc au niveau du climat et des sols, c'est des sols sur lesquels la variété canne bleue, qui est d'origine barbadienne, qui est assez répandue en Martinique, pousse très bien et a des qualités agronomiques et aussi de transformation qui sont les plus intéressantes. Malheureusement, pour l'instant, en bio, on ne peut pas les utiliser puisqu'on nous oblige à utiliser des variétés différentes. Je rajouterai aussi le fait qu'il y a peu de références sur le sujet, surtout en milieu tropical. Le cahier des charges bio, c'est le cahier des charges européen qu'on applique. Il a été pensé plutôt pour des cultures européennes. Nous, on est un petit peu en marge de tout ça et on a des problématiques très différentes. On est en climat tropical, on va avoir des herbes toute l'année, on n'a pas d'hiver pour nous stopper pendant quelques mois la pousse. Voilà.
Il faudra peut-être que l'Europe revoie sa copie, c'est ça que vous voulez dire ?
Bah oui, je pense que ce serait intéressant qu'on se mette tous ensemble au niveau de la Martinique et puis des dom-toms en général pour vraiment défendre un bio qui soit un bio des tropiques.
Est-ce que vous bénéficiez des aides de la PAC, la politique agricole commune ?
Alors, on bénéficie des aides de la PAC de façon générale. Malheureusement, il n'y a aucune aide qui incite à convertir des parcelles en bio et à les maintenir. Il n'y en a pas du tout.
C'est pénalisant, justement, quand on veut se lancer dans le bio.
Bien sûr, surtout que faire du bio aujourd'hui, ça va dans le sens aussi d'autres plans d'action territoriaux sur la qualité des eaux, sur la qualité de l'air. Donc aller dans le sens de la réduction des herbicides, le bio y participe complètement, c'est sa raison d'être de base. Et pourtant, on ne favorise pas cette pratique. Voilà, et nous, effectivement, on aurait des moyens un petit peu de compenser au moins la partie conversion, puisqu'il y a 3 ans quand même qui ne comptent pas. On va faire des pratiques bio sans pouvoir valoriser derrière nos produits. Donc, on a pu se permettre de le faire parce qu'on maintient par ailleurs des parcelles en conventionnel. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Et c'est dommage.
Malgré ces difficultés, la distillerie Naisson a prévu de produire le premier rhum élevé sous bois bio l'année prochaine et le premier rhum vieux bio dans 3 ans. Il s'appelle Léon Tisgras, mais tout le monde l'appelle Tonton Léon. C'est une personnalité de la Martinique, le pionnier du maraîchage bio qu'il a débuté en 2002. On le retrouve sur son exploitation dans les collines de Fonds-Saint-Denis, avec une vue époustouflante sur la montagne Pelée. Ou sur l'épaule, il conseille ses associés qui font des semis de salade.
Bon, mon vieux, ça fait plaisir de te recevoir quand même chez moi. Après, il était
ça va, plaisir partagé.
Ici, on est sur une exploitation sportive. Il faut avoir la force et le courage d'y rester et d'y continuer. Mais c'est un challenge. Et ce challenge, je pense qu'il est beau. Parce que personne ne croyait que je pouvais faire quelque chose ici. Même mes parents disaient, bon, ils ont tellement galéré de leur vie. Ils me disaient, bon, va vers la ville, repars, fais autre chose. Parce que c'est difficile. Et ma première question, c'est de poser ma valise là où ils ont posé leur vie. c'est ça qui est beau. Et puis je crois que c'est devenu un jeu. Aujourd'hui, ce jeu-là est devenu non seulement une orientation mondiale, puisque Macron l'a bien dit, hein, on va beaucoup sur la mondialisation et le développement rural, écolo, famille et tout ça. Je crois que c'est l'orientation de la nouvelle donne de la société. Parce qu'on a beaucoup oublié le savoir-faire, je dirais, transfert de savoir-faire de nos aînés. Et comment je suis venu ici, là où était la chose primordiale que mes parents manipulaient, parce que c'est quand même là où qu'ils nous ont permis de faire, de nous envoyer à l'école, d'acheter nos vêtements, parce qu'ils avaient que ça comme outil de travail et de maîtrise du sol. Et bien, et quand je suis revenu, par respect, par coutume, par nécessité, et pour continuer le travail qu'avaient commencé mes parents, et bien, je repris là-haut. Et j'ai fait de là-haut aujourd'hui une référence mondiale. Et aujourd'hui, je suis comme très fier, très content, parce que c'est dans la réalité que je trouve les vraies valeurs. C'est ça, fier. C'est des semis, ça?
Ouais, des semis.
De laitue.
De laitue.
Attends, on va essayer comme ça, là.
Je vais le montrer.
Normalement, ça va. C'est quoi?
Chêne rouge.
Ah, c'est la variété chêne rouge.
Voilà.
Qu'est-ce que le bien sur le robot?
Ouais, c'est le café de l'autre côté, hein, mais après quand j'arrive, il me fait la gueule. Hein.
Alors lui, c'est Adel Guetta, qui fait partie de la structure bio qu'on a montée, et qui est sociétaire bio sur la commune du Gaumont, et qui, par collaboration, bien aujourd'hui, partager une machine en commun, hein, pour pouvoir faire des semences. Et je crois que c'est ça tout l'intérêt, je dirais, de la fédération, des agriculteurs pour qu'ensemble ils puissent avoir en commun du matériel et pouvoir se développer.
Tonton Léon, on est où là?
Ben ici, on est à Fonds-Saint-Denis, une des communes du Nord, située à 675 mètres d'altitude. Donc c'est une commune où il fait bon vivre, hein, qui est quand même située dans les hauteurs, cloisonnée entre les pitons du Carabène, chaîne volcanique, et la montagne Pelée. Donc la force de cette commune, c'est d'avoir un taux de quartz important dans le sol, c'est d'être à 6,50 m de sol arable, ce qui est important. C'est la seule commune de Martinique capable de chlordécone.
Alors vous disiez que c'était la, une des seules communes à ne pas avoir été polluée par le chlordécone.
Ouais.
Le chlordécone, c'est donc ce pesticide qu'on utilisait dans les années 90,
ouais,
dans les bananeraies notamment.
Ouais, ouais.
Mais comment vous expliquez que cette zone-là ait été épargnée ?
Elle a été épargnée parce que simplement, c'est très montagneux, d'une part. C'est une zone très aride. Donc la culture de bananes n'a pas été vraiment imprégnée dans cette partie de l'île. Mais on reconnaît le désastre que ça a fait le chlordécone. Puis aujourd'hui, bon ben, si on ne vit pas avec, on essaie de tout faire pour remédier. Mais aujourd'hui, l'agriculture aujourd'hui a une autre approche plus biologique, une approche plus agroécologique, une approche plus permaculture. Donc je crois que cette approche-là fait qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience.
Alors vous parliez de prise de conscience, mais tout n'a pas été si simple parce que vous, quand vous avez commencé, vous avez été un des premiers à développer le bio ici en Martinique. Comment c'était perçu et qu'est-ce qui, vous a donné envie de vous lancer dans le bio à une époque où c'était pas tellement développé finalement?
Alors c'est très simple. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai voulu mettre en avant le jardin créole. C'est tout bête. Le jardin créole qui est quand même endémique à un peuple, endémique à une manière de faire, endémique à un mode de culture parce que c'était authentique. C'était un agencement particulier. C'était...
Alors expliquez-nous cet agencement et ce qu'est le jardin créole. Pour ceux en métropole et en Afrique et dans le reste du monde qui ne connaissent pas le jardin créole.
Le jardin créole, c'est un agencement d'une parcelle où on va emmener plusieurs cultures tout en respectant leur développement, leur association, puisqu'elles vont à la fois avoir deux rôles. Un rôle de productivité, mais un rôle d'association et de maîtrise de l'environnement pour contrôler les bestioles du sol. Donc, c'était les plantes entre elles vont s'associer pour qu'ils puissent s'autodéfendre. Et ça permettait de ne pas emmener de produits chimiques. Ça permettait de mettre l'homme en avant, de mettre son énergie, sa vibration. Le jardin créole était un jardin de santé. Dans le jardin créole, on avait toujours tous une plante médicinale qui permettait de prendre soin de la santé de la famille. Donc ça aussi, c'était quelque chose de très fondamental, qui était ancré dans le jardin, parce que le jardin non seulement nourrissait, le jardin guérissait, et le jardin était une approche familiale. Donc c'était tout un art. Et cet art-là, eh bien, il disparaît tout doucement parce que la présence humaine du jardin créole fait qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent plus s'en prendre à ça. Ils trouvent le jardin créole, je dirais, dans les hypermarchés. Et donc ils ont essayé. Mais nous, aujourd'hui, on maîtrise, on connaît, on en parle encore, on en fait. Et c'est ce qui est beau, hein. c'est un peu ça.
Et c'est important pour vous justement de, peut-être pas de sauvegarder, mais de continuer cette culture créole, cette particularité créole?
Oui, c'est important pour moi de non seulement de continuer, mais c'est important de pouvoir montrer à mes enfants qu'il y a eu un point de l'histoire. Et ce point de l'histoire, je l'ai continué pour qu'ils puissent avoir, je dirais, en mémoire, notre traçabilité patrimoniale, culturelle, traditionnelle, et puis une continuité tout court de passation de pouvoir. Ce travail que j'ai lancé, continué, mais fait encore son chemin. Hein, parce que c'est vrai que c'est un beau travail.
C'est un beau travail, mais est-ce que ça vous permet de vivre correctement? Est-ce que c'est rentable? Et quelles sont les contraintes de l'agriculture biologique ici en Martinique?
Bon, aujourd'hui, ma première question, c'est de vous dire que tout métier nous y sommes maîtres. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans le métier? Si vous voulez rouler une Mercedes, et puis pour du travail, c'est pas possible. Je fais beaucoup de thématiques autour de mon agriculture et j'ai emmené ce qu'on appelle la diversification agricole autour de la bio. Après, aujourd'hui, vous êtes avec moi là, vous dormez chez moi, simplement parce que j'ai ajouté une partie hébergement sous l'exploitation. Vous avez quand même mangé avec moi parce qu'on a ajouté une partie culinaire, table d'hôte. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui permettent d'entrer dans ce cadre diversificatif de développement du métier de l'agriculture biologique. Il ne faut pas rester voir l'agriculture biologique uniquement en plantant quelques carottes, quelques patates et les vendre. Mais c'est surtout comment on peut diversifier, transformer. Donc on a un pôle de transformation avec des chefs qui viennent prendre les produits du jardin, donc une formule du sol à l'assiette, et qui permet de transformer le produit autour d'une table.
Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture bio ici? Parce qu'on parle quand même de problèmes de foncier, d'accès à la terre. Il y a quand même l'agriculture conventionnelle qui est encore très ancrée ici. Quelle place pour le bio dans le futur?
Si vous comprenez ce langage que je vais vous dire, répétez-le. La bio, c'est un boulevard devant, un boulevard derrière. C'est-à-dire que quand je rentre sur le boulevard, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Parce qu'on fait simplement que l'ébauche.
dans les 10 années à venir, il y a une chose sûre qui va marquer le monde, c'est le développement durable. C'est la famille, c'est l'agriculture biologique, c'est l'environnement. Parce que la bio aujourd'hui, c'est une autre manière de penser. C'est même pas aller gagner des millions. Non, mais simplement vivre sainement, naturellement et en harmonie. C'est le seul outil à notre portée pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est la bio.
Merci.
Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, merci.
Tonton Léon a encore plein de projets en tête. Faire de l'initiation à la terre pour les 6-12 ans, développer ses choix de culture avec des produits plus raffinés, et enfin, son rêve, créer une table de gastronomie rurale.
C'est un très beau terrain tropical. Le soleil brille toute l'année. Alizé, programmé, et toutes les plages garanties cocotées.
Le bio sous les tropiques, c'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Bonne journée à tous et à demain. À suivre, une bande-annonce 30 secondes, puis un nouveau journal sur la radio du monde.
Nous passons devant le volcan Pelé. N'ayez pas peur, les éruptions sont contrôlées. Pour la sécurité, les falaises ont toutes été bétonnées. Serpents anesthésiés et cyclones définitivement détournés.